J'ai pensé pour ce matin un texte qui se trouve dans le prophète Zacharie au chapitre 4. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, vous allez peut-être être un peu étonnés, mais on va vous plonger directement dans les réalités de la prophétie biblique, puisque ce que nous allons lire concerne la venue de Jésus, ce que nous vivons aussi aujourd'hui, même si d'abord le message est donné au peuple d'Israël dans un contexte particulier que nous expliquerons en quelques mots. Au chapitre 4, nous lisons au verset 1er. Zacharie reçoit la pensée de Dieu, il va l'exprimer et nous voyons comment ça se passe. La Bible nous dit le contexte. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu ?» Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant cette lampe, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. » Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. On arrête là la lecture, je vous donne quelques mots d'explication. Cette prophétie donnée par Zacharie est donnée alors que les Juifs rencontraient d'énormes difficultés dans la reconstruction du temple. Il y a eu de l'opposition, il y a eu toutes sortes d'attaques, de mesquineries, de problèmes, ce qui fait qu'ils ont bien commencé, mais ils ont du mal à aller plus loin. Donc c'est un encouragement pour le peuple à poursuivre leur travail malgré l'opposition. Je crois que cette prophétie est une source d'encouragement pour nous ce matin, mais plus qu'une source d'encouragement, elle va au-delà de ce qu'elle apporte à Israël, ce qu'elle peut nous communiquer aussi ce matin. C'est une prophétie qui concerne déjà la venue de Jésus-Christ. Et vous avez remarqué, au verset 1er, l'ange réveille l'homme de Dieu de son sommeil et lui dit, « Que vois-tu ? » C'est une question. Et lui, reprenant la parole, il dit à l'ange, au verset 4, « Que signifient ces choses ?» Donc, il y a deux questions. « Que vois-tu ? » « Que signifient ces choses ?» Je crois que c'est intéressant pour nous de nous poser ces deux questions, à savoir « Que voyons-nous ?» et ensuite de poser la question « Que signifient ces choses ?» Je vais essayer d'être le plus concis possible, le plus clair possible. Le verset premier est extraordinaire. Vous avez vu ? L'ange revient et il le réveille comme un homme que l'on réveille de son sommeil. C'est pourtant quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu. Il ne devrait pas être en train de dormir. Il a entendu le message de Dieu. Ça devrait l'amener un petit peu à bouger, à réagir. Mais il s'endort. Ça, c'est un petit peu l'image de ce que nous sommes. Malgré tout ce que nous voyons, malgré tout ce que nous entendons, le contexte dans lequel nous sommes, nous avons tendance à nous endormir facilement. Et je crois que le Seigneur veut, par toutes sortes de moyens, venir nous réveiller. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Je ne sais pas, quand quelqu'un est bien endormi, eh bien c'est difficile de le réveiller. Et la Bible nous dit que quand Pierre dormait dans la prison, l'ange vint et le réveilla en le frappant au côté. Je ne sais pas si c'est avec le pied ou avec la main, mais quelquefois on a besoin de quelques petits coups comme ça pour prendre conscience dans quel temps nous sommes. Il est temps de nous réveiller. C'est l'heure que le Seigneur a fixée pour que non seulement nous envisagions de nous préparer, mais plus exactement, c'est l'heure d'être prêt, car Jésus est à la porte. Nous ne pouvons pas savoir quand exactement le Seigneur reviendra, mais nous pouvons dire qu'il revient d'un moment à l'autre. Alléluia. Alors, maintenant que l'on commence un petit peu à se réveiller, j'espère, parce que si on ne se réveille pas, Dieu nous aime, et il va employer d'autres méthodes pour nous réveiller. Peut-être en nous frappant au côté, peut-être en nous secouant un petit peu. Et n'avons-nous pas besoin d'être secoués dans ces temps? Et s'il le faut, ça fait du bien. Et quelquefois, on secoue quelqu'un, non pas parce qu'on ne l'aime pas, mais parce que, justement, on veut l'amener à ce qu'il prenne conscience des dangers qui le menacent ou de la situation dans laquelle il se trouve. Peut-être de l'amener aussi à réagir, afin d'avoir les bonnes attitudes. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur. Ce que Dieu veut, c'est nous bénir, au-delà de ce que nous pouvons imaginer et même espérer. Alors l'ange lui dit, que vois-tu? Quand on lit ici dans le livre de Zacharie, et vous verrez au chapitre 1er, verset 8, « Je regardais pendant la nuit, ensuite je regardais à plusieurs reprises. » Il y a ces expressions qui nous disent qu'au milieu des difficultés, nous sommes invités à lever les yeux. Que vois-tu? Si nous nous contentons de ne voir, de ne regarder qu'aux circonstances de la vie, aux choses présentes, il y a de quoi se décourager. Il y a de quoi ne pas avoir le moral. Si nous regardons uniquement à ce que les hommes envisagent de nous offrir, même les grands de ce monde, il y a de quoi se décourager. On peut nous faire beaucoup de promesses, nous savons que depuis qu'on nous fait des promesses, aucune de ces promesses n'est tenue parce que personne n'est maître des circonstances. Et quand même les hommes disent « on va faire comme ceci », il peut arriver n'importe quoi qui bouscule les raisonnements et qui empêche la réalisation des projets des hommes. La Bible nous dit que Dieu est assis sur son trône et il règne. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, ça ira de mal en pis. Donc ne regardons pas seulement aux circonstances. Le monde, mais peut-être les circonstances de ta vie. Tu vois dans ta vie que les choses ne vont pas. Peut-être que quelque chose est comme cassé. Tu n'as peut-être plus la volonté, l'énergie. Tu n'as peut-être plus envie de te battre, de lutter. Il y a, comme me disait cet homme, le ressort de ma vie est cassé. Je n'y arrive pas. C'est vrai qu'on peut se trouver dans ces situations-là. Mais le Seigneur nous dit ce matin, que vois-tu ? Ne regarde pas simplement aux circonstances. C'est difficile, vous avez entrepris une tâche. Cette tâche, eh bien, vous avez l'impression que jamais elle ne sera accomplie, que vous n'arriverez pas jusqu'au bout de ce que vous avez décidé d'entreprendre pour Dieu. Mais regarde différemment, lève les yeux. Et la Bible nous dit que l'homme de Dieu a levé les yeux et il a vu quelque chose de bien précis. Et nous y reviendrons dans quelques instants. Il faut quand même souligner que le nom du prophète, c'est déjà tout un message. L'Éternel s'est souvenu. Voilà ce que signifie Zacharie. Je pense ce matin que tu dois entendre ceci. Le Seigneur se souvient toujours. Il n'est pas amnésique. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait et il a entendu tes prières. Il connaît ta situation. Et même si tu as l'impression que Dieu a oublié, Dieu s'est souvenu. Et il veut te le dire parce que ce qu'il a promis, il l'accomplira toujours. À lui soit toute la gloire. Regardez le texte, il est parlant. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. La grande montagne représente ici les difficultés qui se présentent à eux. Quelquefois, nous sommes là face à des situations qui nous paraissent insurmontables. Et là, nous pouvons, comme le psalmiste, dire: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas, il ne sommeille, il ne dort. Celui qui te garde, Israël, nous avons ces promesses pour nous. Et quelquefois, ces montagnes sont là, et ces montagnes paraissent infranchissables, mais le Seigneur dit, elles seront aplanies. Et il y a quelque chose ici d'extraordinaire, de cette montagne, une pierre se détache, et cette pierre va devenir une pierre qui va servir à la construction du temple. Cette pierre deviendra la pierre angulaire, la pierre de fondement, celle qui retient tous les éléments. Et on n'a pas le temps de développer au niveau de ces pierres angulaires, de leur forme et leur rôle dans les constructions anciennes. Mais cette pierre-là, elle nous parle de qui? Elle nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il est venu parmi les hommes et le monde est comme une montagne, mais de ce monde, en quelque sorte, a été extrait une pierre qui se détache de tout le reste. Et cette pierre-là, c'est cette pierre qui amène la solution, qui amène le remède. Christ est venu parmi les hommes, mais Christ est venu donner sa vie à la croix du calvaire. Et là, sur la croix, il a proclamé que tout est accompli pour notre salut et pour notre délivrance. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand à considérer, car si c'est extraordinaire de savoir que Christ est venu parmi les hommes et qu'il s'est détaché du reste pour montrer le vrai visage de Dieu. Il a révélé l'amour et la grâce du Seigneur. Bien, il y a un message prophétique qui nous concerne. Car voyez-vous, encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a bien des pierres qui sont extraites de la carrière du péché de ce monde et qui sont mises à part. Elles sont préparées, taillées, pour devenir ces pierres vivantes qui forment la construction de l'édifice spirituel qui est l'Église de Jésus-Christ. Un jour, alors que je ne faisais qu'un avec cette montagne ténébreuse, terrible, alors que je ne pouvais par moi-même m'extraire, et le Seigneur est venu par son esprit, par le moyen de sa parole, et il a extrait ma vie de ce monde. Il m'a sorti de cette carrière du péché maudit. Et il m'a mis à part, il a taillé. Et il taille encore, car il y a encore du travail. Mais pour m'amener à être cette pierre préparée dans l'édifice qui appartient à Dieu, dans lequel il habite. Et je bénis le Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, il est venu pour extraire. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous avons été extraits. Vous, et qui êtes là pour confesser le nom du Seigneur, Vous avez été mis à part maintenant, sorti de cette réalité du monde. Les choses du monde seront aplanies. Le diable a déjà mordu la poussière. Le serpent ancien a été vaincu. Sa tête a été écrasée. Nous avons la victoire. Mais vous êtes à part pour faire partie de l'Église de Jésus-Christ, cet édifice spirituel. Et là, il y a ce verset clé qui nous touche tous. Quand l'ange explique les choses, que signifient ces choses, la réponse est donnée. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Pas beau ça? C'est pas la force, c'est pas la puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui fait tout. Ou nous ne pouvons pas rejeter le fait qu'il y a de la puissance chez les hommes, de la force chez les hommes, la puissance de la violence, la puissance de l'autorité, la puissance de l'argent, mais toutes ces choses sont des puissances qui s'exercent d'une manière vaine, inutile, et qui ne dure pas. L'homme se retrouve à un moment donné face à des réalités qui le dépassent, et il ne peut pas, lui, s'en sortir par lui-même. Il ne peut pas remporter la victoire. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie chapitre 9 que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Alors, je veux dire aux hommes qui pensent qu'ils sont forts, qu'ils s'en sortent par eux-mêmes, qu'ils peuvent faire quelque chose par eux-mêmes, ne vous glorifiez pas de ces choses, parce que c'est une confiance vaine que vous placez en vous. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Moi, ce que je voudrais, c'est vous encourager à être rempli du Saint-Esprit, à vivre cette expérience bénie ou remplie de cette gloire divine, parce que c'est la promesse que Dieu fait, vous puissiez briller de la lumière de Dieu. Savez-vous que l'Esprit de Dieu agit sur tous les hommes et qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu vient réveiller nos consciences pour nous attirer à Dieu, pour nous permettre de réaliser qu'il y a un Dieu et que nous avons besoin de lui. C'est la première étape. Et peut-être que dans ta vie, tu as déjà ressenti ces moments. Je me souviens de cet écrivain, un athée, qui a été interviewé par le journaliste. Et le journaliste lui a dit, donc vous êtes athée, vous ne croyez pas en Dieu. Et donc l'homme, l'écrivain, a répondu, non, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'à 20 ans, j'ai senti une attraction vers Dieu. C'était au moment où je devais faire des choix dans ma vie. Et à ce moment-là, j'ai senti vraiment une attraction vers le spirituel. Mais j'ai renoncé, j'ai préféré vivre ma vie sans Dieu. À 40 ans, j'ai senti à nouveau cette attraction et j'ai refusé et j'ai décidé de vivre sans Dieu. Donc je ne suis pas athée parce que je ne crois pas en Dieu. Je suis athée parce que j'ai choisi de l'être. C'est important de souligner. Cet homme-là ne croyait pas en Dieu parce qu'il avait choisi de ne pas croire en Dieu. Mais nous pouvons choisir de croire quand cette attraction se fait sentir, de se tourner vers le Seigneur, de lui faire confiance, de lui adresser une prière maladroite, peu importe. Le Seigneur n'en a rien à faire de nos veines redites. Ce que Dieu veut, c'est que notre cœur s'ouvre et qu'en s'ouvrant, nous puissions lui dire les souffrances qui sont les nôtres, les peines. C'est comme ici, est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire? Et là, l'homme de Dieu te répond, non, je ne comprends pas. Ça ne sert à rien de dire que tu comprends si tu ne comprends pas. Ça ne sert à rien de dire je crois si tu ne crois pas. Il vaut mieux être honnête avec le Seigneur. Il vaut mieux être comme cet homme qui dit je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. J'ai besoin que ta lumière se fasse dans ma vie. Alléluia. La Bible nous dit que par l'Esprit de Dieu, non seulement il y a cette action, mais ensuite nous pouvons être baptisés dans le Saint-Esprit plonger dans la réalité du Saint-Esprit pour pouvoir vivre une vie dans une dimension nouvelle avec tout ce que cela représente. Et je bénis le Seigneur pour cette expérience glorieuse. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez renouvelés dans le baptême du Saint-Esprit. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il y a des promesses extraordinaires et nous voulons les serrer dans notre cœur, mais surtout, nous voulons les vivre. Alors, je veux arriver à quelque chose de bien précis, parce que nous avons un peu compris, on est bousculé pour pouvoir lever les yeux, et là, le Seigneur dit, que vois-tu? Et que voit-il? Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant sept lampes avec sept conduits dans les lampes qui sont au sommet du chandelier. En réalité, on dit un chandelier, mais c'était un porte-lampe, puisque les chandelles n'existaient pas à cette époque, mais des lampes à huile. D'ailleurs, les choses sont précisées, il fallait donner un nom à ce chandelier, ce porte-lampe, donc on l'appelle le chandelier. Il est présent dans la construction du tabernacle et Dieu l'a révélé en détail à Moïse qui l'a fabriqué avec ceux que Dieu a choisis pour cela. Il était en or pur, c'est le symbole de la nature divine. Pour le fabriquer, il n'y avait pas de soudure, c'était une seule pièce qui était battue, et c'est vrai. Nous avons ici une vérité, c'est la souffrance qui façonne. Le Seigneur est passé par la souffrance, mais nous aussi, les uns et les autres, nous pouvons passer par la souffrance. La souffrance n'est pas forcément quelque chose de négatif pour nous empêcher de nous épanouir, mais on apprend beaucoup quand on souffre. Mais c'est vrai aussi qu'il y avait une tige centrale, Jésus est le cep, il y avait les autres tiges qui étaient fixées, enfin, qui sortaient de cette tige centrale et qui nous parlent des sarments, donc chacun d'entre nous, ses branches. Il y avait des calices et des pommes, toutes des représentations précises qui nous rappellent le fruit de l'esprit. Et puis, tout était fait d'une seule pièce pour nous faire comprendre que le Seigneur veut que nous et lui, que lui et nous, nous ne soyons qu'un. Et cette nature divine, il nous la communique à nous. Ce chandelier est le symbole de Jésus qui est la lumière du monde, mais il est le symbole de l'Église, car nous sommes la lumière du monde. Et avec lui, nous ne sommes qu'un. Ce n'est pas notre lumière qui est importante, c'est la lumière de notre Seigneur. Le soin du porte-lampe était donné au sacrificateur, et c'est le Seigneur qui s'occupe de nous chaque jour. Je voudrais dire aux jeunes convertis, le Seigneur va s'occuper de vous chaque jour. C'est lui qui va prendre soin de vous. Vous n'êtes plus qu'un avec lui, c'est important. Nous sommes unis aussi avec vous pour former le corps de Christ dont lui est la tête. Et on ne voudrait surtout pas que la tête soit séparée du corps. Nous voulons vraiment que tout soit uni pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Mais je vais attirer votre attention sur deux éléments qui, je voudrais, marqueront votre cœur. La vision. Je vois un porte-lampe. C'est ce qui est écrit. Et au-dessus de ce porte-lampe, il y a un réservoir rempli d'huile. C'est l'abondance du Saint-Esprit. Et chose qui n'existait pas dans le tabernacle, il y a un conduit pour chaque lampe. Ça veut dire que de ce réservoir, l'huile arrive dans les lampes directement. Et cette huile alimente ces lampes pour que la lumière puisse briller, pour que la lumière se fasse. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je pense à cela, je suis émerveillé. Je suis une lampe parmi les lampes, comme toi, tu es une lampe. Mais une lampe n'a d'intérêt que si elle brille. Pour briller, il faut qu'elle soit alimentée. Pour être alimenté, il y a un réservoir rempli d'huile. Et ça, c'est l'abondance du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et il n'est pas à court. À un moment donné, à cause de la pénurie, on cherchait de l'huile partout. Mais avec Dieu, on ne cherche pas de l'huile. Il y a de l'huile en abondance dans le ciel. Et il y a quelque chose maintenant qui nous relie au Seigneur. Et ce qui nous relie au Seigneur, c'est cette merveilleuse communion que nous avons avec le Maître. Et cette communion, elle est indispensable. Et c'est pour cette raison que nous devons veiller en permettant au souverain sacrificateur qu'est Jésus-Christ de prendre soin de ces lampes. Nous devons veiller à ce que dans ces lampes, il n'y ait pas d'impureté, quoi que ce soit, qui obstrue le canal et qui empêche l'huile de couler. Le problème n'est pas le réservoir. Le problème, c'est le soin que nous prenons de ce que Dieu nous a confié. Et nous devons veiller à ce que rien ne soit comme un bouchon nous empêchant de recevoir la bénédiction. Nous voulons que l'huile coule ce matin. Réalise un instant, tu es relié directement au Seigneur. Et là, l'huile coule, l'huile d'or, cette huile pure coule dans ta vie pour que la flamme que le Seigneur est venu allumer puisse être alimentée et que tu puisses donner la lumière sur la base de l'huile que le Seigneur t'aura donnée. Car il faut aujourd'hui que tu sois la lumière qui éclaire ce monde, car le monde a besoin de cette lumière, a besoin de se repérer, et c'est important que tu le réalises. Mais par-dessus toutes choses, tu dois savoir que la lumière, c'est Jésus-Christ. Et ça, tu ne dois jamais l'oublier. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Annie, dans l'instant que je lui dirai, de projeter une diapo, parce que, vous savez, la lumière répandue par l'Esprit, c'est celle du nom de Jésus. Le nom de Jésus est une lumière qui éclaire. D'ailleurs, les caractères en hébreu de ce nom forment les flammes, voyez-vous, ça c'est Yeshua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a pas de hasard. La lumière, le chandelier à ses branches. J'ai 7 lampes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons tout pleinement, puissions-nous le serrer dans notre cœur. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas être technique ce matin dans l'explication du texte, car il y a beaucoup de choses merveilleuses à découvrir, et à savoir que l'intervention de Zorobabel et Josué, c'est l'intervention de celui qui est de lignée royale et du sacrificateur, notre Seigneur, et les deux en même temps. Ce n'était pas possible en dehors de Christ, et ça c'est extraordinaire, parce que nous avons un Seigneur qui est roi, qui est sacrificateur, qui prend soin de nous, qui nous aide, qui nous bénit et qui remplit nos vies. Alors ce matin, puissions-nous donner gloire au Seigneur pour sa fidélité, et souvenons-nous que nous sommes reliés à un réservoir qui est rempli. On peut bénir le Seigneur ensemble, et puis on va rendre grâce à Dieu, louer le Seigneur, peut-être quelques courts instants, élever la voix tous ensemble.